La geek de service.
Un épisode sur la réalité virtuelle, vous savez que c'est mon dada et que c'est quelque chose que j'aime beaucoup explorer. Donc, je vous parle aujourd'hui de deux choses, d'une expérience dans l'espace à aller vivre à Montréal, au Centre Phi, et je vous parle de mon expérimentation avec Workrooms, qui est l'espèce d'environnement de travail virtuel que Facebook a lancé. Pour ce qui est de l'expérience en VR, ben encore une fois, c'est le Centre Phi qui offrait l'expérience. J'ai déjà parlé d'une autre exposition en VR que j'avais expérimentée là avec le Centre Phi. Cette fois-ci, ça se passait à l'Arsenal, qui est dans le secteur de Griffintown à Montréal, parce qu'ils avaient besoin d'espace. Pour aller dans l'espace, on avait besoin d'espace. En fait, ils ont un espace de 12 500 pieds carrés, pardon, pour qu'on puisse se promener puis vraiment bouger. C'est une des contraintes les plus fréquentes avec la VR. Si vous n'avez pas un espace où vous pouvez bouger, ben c'est là qu'on se retrouve à casser une lampe, à donner un coup de poing dans le mur. J'ai vu des fous de la VR complètement vider des sous-sols, plus de meubles, plus rien pour juste avoir de l'espace pour pouvoir bouger, d'autres vider leur garage puis l'utiliser comme endroit de VR. Donc, on a besoin d'espace si on veut vraiment vivre la totale. Sinon, ben on est obligé d'utiliser la téléportation. Ça, c'est quand on utilise notre manette d'Oculus pour pouvoir se déplacer. Donc, on clique vers un point et on se déplace. Mais ça enlève un peu du côté vraiment immersif parce que là, c'est pas nous qui a marché jusqu'au corridor suivant. Par exemple, on s'est déplacé par la téléportation. Donc, ça règle le problème pour les petits espaces, mais là, c'est pas le cas de cet espace-là avec 12 500 pieds carrés. On avait de la place pour marcher et bouger. On parle d'une expérience qui dure environ une heure, je dirais entre 45 minutes et une heure, et on est environ là, à pleine capacité, 90 personnes dans cet espace-là. Mais vous inquiétez pas, on se rentre pas toutes dedans. Quand on se promène dans l'espace, on devient une espèce de petit avatar, avatar fantôme, là, pas un avatar là qu'on voit sourire ou rien, là comme une ombre finalement. Et les avatars bleus sont des gens qui ne sont pas de notre groupe ou de notre famille, et les gens en jaune sont les gens qui sont dans notre famille. Donc, on peut facilement, si par exemple, on y va en groupe, on y va en famille, on est quatre, on peut facilement se retrouver, on cherche nos avatars jaunes et on se retrouve, on a une espèce de petit cœur jaune, là, pas un cœur, mais une petite étoile jaune. C'est difficile à décrire à l'audio ce qu'on vit, mais bon, bref, c'est organisé pour qu'on se rentre pas dedans et qu'on puisse voir un peu où sont les gens et où sont les gens qui sont venus avec nous. On entre dans la salle, une dizaine de personnes à la fois, on nous explique et on nous aide à mettre le casque. Donc, ce sont des casques Oculus Quest, mais avec un ajustement de plus que le modèle de base, avec des écouteurs. Il y a quelques petits capteurs de plus qui ont été ajoutés, probablement pour l'expérience en tant que telle. Donc, le casque est un petit peu pimpé, je dirais, que le casque habituel qu'on peut avoir à la maison. Donc, on nous aide avec tout ça. Puis ensuite, ben, on se déplace dans la grande espace qui est en fait la station spatiale. Donc, on se promène vraiment dans les corridors. Il y a des objets qui flottent autour de nous comme si on était en apesanteur. Et un peu partout dans l'espace, il y a des bulles. Bon, encore une fois, à l'audio, bien difficile de décrire l'expérience, mais j'essaie de vous résumer ça. Chacune des bulles représente une courte vidéo 360 qui a été filmée avec les astronautes. Donc, des entrevues, on les voit, par exemple, s'entraîner, comment ils font de la recherche, comment ils se nourrissent, comment ils dorment, leur réflexion sur l'expérience d'être dans les airs. Les vidéos sont en anglais, mais il y a des sous-titres en français. Donc, si on est bilingue, ben souvent, moi, j'essaie d'ignorer les sous-titres. Je pourrais pas vous dire est-ce que c'est fatigant de toujours lire les sous-titres dans l'autre langue, parce que vu que je comprends l'anglais, c'était pas un obstacle pour moi. Mais les sous-titres, quand je regardais, c'était tout très bien traduit. Moi, j'avais déjà vu plusieurs des extraits parce que j'ai les documentaires sur ma Oculus déjà, mais je les avais pas tous vus. Donc, si vous aviez déjà visionné là, les deux premiers documentaires de Félix and Paul sur la Oculus, ça vaut quand même la peine parce que il y a une multitude d'extraits qui n'y étaient pas, que je n'avais jamais vus. Il y a plus d'extraits que ce qui est possible de voir en 45 minutes, une heure. Donc, c'est impossible de tout voir les bulles. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que si on y va en groupe, ben on n'aura peut-être pas vu toutes les mêmes bulles vidéo. Donc, moi, je vais peut-être les avoir vues, par exemple, faire une recherche sur des plantes qui font pousser dans l'espace. Et mon fils qui va venir avec moi va avoir vu comment ils se font un souper, par exemple, et ensuite, la discussion qui vient après est vraiment intéressante. Tout est divisé en quatre phases. En chaque phase, la station spatiale disparaît autour de nous et on flotte comme dans l'espace. C'est vraiment super beau à regarder, donc c'est un super beau moment. Et la quatrième phase, on est dans une position assise, donc là on a un petit moment où on nous amène dans notre casque, on nous indique où est notre chaise, on a un peu peur de s'asseoir puis de dire « je vais-tu m'asseoir dans le vide » parce que la chaise est comme virtuelle, mais un coup qu'on est assis, on est comme si on regardait par le hublot, je ne sais pas si on appelle ça un hublot sur une station spatiale, et on regarde passer la Terre devant nous, on fait un tour en accéléré. C'est très, très beau et c'est un très beau moment. Là, ça donne des frissons de regarder la Terre de cette façon-là. La dernière petite exposition, ça se termine sans casque. Là, après ça, on remet notre casque. Il y a une petite exposition multimédia à la fin. Je ne sais pas si elle change ou si c'est toujours la même, mais celle que moi j'ai vue, il y avait un miroir sur le sol, un miroir en rond, et au plafond, il y avait une projection très graphique, comme si on regardait des cartes météorologiques et autres, tout en accéléré, avec la musique très techno. La thématique était très clairement là, le réchauffement climatique est haut avec du data, des statistiques. Ça dure peut-être une dizaine de minutes, puis après ça, on sort de l'expérience finalement. Donc, tout ça prend à peu près 45 minutes, une heure. Les billets sont encore en vente. L'exposition est là jusqu'au 7 novembre. Il y a des forfaits famille ou groupe plutôt. Si vous êtes 4 personnes ou plus, il y a un 20% de rabais. En passant, je vous parle de ça, mais je fais nullement de sous avec rien de ce que je vous parle dans l'épisode. C'est vraiment des coups de cœur. Donc, c'est pas un coup de cœur, je vous en parle pas. Puis quand c'est un coup de cœur, je vous en parle. Mais je pense vraiment que c'est une sortie qui en vaut la peine. C'est surtout si vous avez pas de casque à la maison pour aller voir les documentaires de Félix and Paul, mais je regrette pas d'être allé même si j'avais accès au casque à la maison parce que l'expérience est vraiment pas pareille, de pouvoir vraiment se déplacer, puis c'est vraiment complet, c'est vraiment un beau moment. On parle à peu près entre 30 et 50 $ là, pour les billets pour les adultes, 10-12 pour les enfants. Il y a une différence de prix parce que c'est moins cher, par exemple, si on y va un mardi matin qu'un samedi. Donc, si vous avez de la flexibilité dans votre horaire, ça revient moins cher. Il faut par contre, ce qui est pas mentionné, il y a un stationnement qui était quand même 17 $ à moins de trouver un stationnement dans les rues environnantes. Il faut savoir que les enfants de 8 à 12 ans peuvent participer, 13 ans et plus, il n'y a pas de souci. Mais de 8 à 12 ans, vous devez, comme parents, signer un consentement pour qu'ils participent à l'expérience. Il faut savoir que les casques Oculus Quest sont 13 ans et plus. Bon, majoritairement parce qu'ils utilisent des comptes Facebook, c'est pas le cas pendant votre expérience. Les casques sont gérés pour vivre une seule expérience. On peut pas aller sur Facebook avec notre casque. Ils sont vraiment arrangés pour. Je déduis que c'est pour se protéger. On n'a pas d'études encore qui parlent beaucoup, là, le casque au niveau des yeux, qu'est-ce que ça peut avoir comme effet sur les plus jeunes. Donc, on est souvent frileux là, en bas de 13 ans. Je pense pas qu'un 45 minutes va faire la fin du monde, mais à vous de voir selon aussi les conditions médicales. Un enfant vient de faire une commotion cérébrale, c'est vraiment pas approprié d'aller faire une activité comme ça. Les moins de 8 ans ne sont pas admis du tout. Donc, c'est vraiment de 8 à 12 ans. On on demande le consentement. Par contre, on peut aussi, si on veut pas leur mettre le casque, ils pourraient participer avec nous, mais là, ils visionneraient sur une tablette. Donc, eux verraient les gens, ils seraient pas dans ce mode de présence-là, mais ils pourraient voir avec la tablette. Le seul hic, c'est de mon côté, le seul bémol, c'est que les gens sont très en réaction, même si on l'avait dit au début de la rencontre, avant de rentrer, on nous avait expliqué qu'il fallait faire attention, il fallait chuchoter, il fallait pas parler, mais on entendait des gens parler, s'exclamer, parler entre eux, « check ça Rita, viens ici, viens voir celle-là ». Donc, ça enlève un petit peu l'effet de présence qui est moins là quand t'entends les enfants parler à leurs parents ou des couples se parler entre eux. On est porté à parler plus fort parce qu'on a du son dans les oreilles, fait que là, les gens parlent beaucoup trop fort pour ce que c'est. Je déduis que si c'était à refaire, choisir un moment où c'est un peu moins achalandé, donc peut-être pas un samedi après-midi pluvieux, quoi qu'on achète nos billets d'avance, c'est dur de savoir. J'ai pas trouvé ça inconfortable du tout. C'est pas assez long pour que ça devienne ultra inconfortable pour les yeux. J'ai pas eu de maux de tête ou rien. C'était très, très confortable. Le son était bon. Tout fonctionnait très, très bien. C'est super bien organisé, là. C'est rodé. On attend notre tour. On rentre en batch de 10. Tout est bien synchronisé et tout est super nettoyé. Là, ils ont des machines à rayons UVC là, qui tuent tous les bactéries sur les casques là, entre chaque utilisation. Donc, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Bien sûr, il faut porter notre masque à l'intérieur parce qu'on va être à moins de 2 mètres de certaines personnes. Là, si on passe à côté, on va être moins de 2 mètres. Donc, on gardait notre masque, mais ça n'a pas été... tout a été très confortable, moi, de mon côté. J'ai rien à redire. C'est pas de la faute de l'exposition s'il y a des gens qui parlaient plus fort. Fait que je collais mes écouteurs un petit peu sur mes oreilles pour être plus immersé. C'est le seul petit bémol que je mettrais. En passant, le Centre Phi a d'autres expositions aussi. Et d'après moi, ils vont en avoir d'autres de ce genre-là parce que c'est assez populaire. Il est possible aussi de louer des casques pour une durée. Je pense que c'est pour un week-end ou quelque chose comme ça. Donc, si vous voulez vous informer, ça pourrait être quelque chose qui peut être une activité intéressante. Il va faire grisou et pluvieux bientôt à l'automne. Mais pourquoi pas prendre un casque pour la fin de semaine. Le casque vient avec un paquet de documents à écouter. Donc, on a un casque pour la fin de semaine pour l'essayer. Puis après, ben, vous verrez si vous avez le goût de vous lancer. Félix and Paul qui a réalisé là, tout ce documentaire et toutes ces entrevues qu'on voit dans l'exposition viennent d'ailleurs de réussir ce qu'ils avaient prévu faire pour leur série de documentaires, soit d'avoir une caméra qui filme 360 dans l'espace, donc qui a été montée à l'extérieur de la station spatiale. Donc, j'attends avec impatience ces vidéos-là qu'on va avoir la chance de voir. Qu'est-ce que c'est vraiment de sortir de la station spatiale puis de voir l'espace, là. On va vraiment, on sera pas là pour vrai, mais pas loin. Donc, ça s'en vient. C'est probablement dans les prochains documentaires qui vont être disponibles sur la Oculus Quest. Pour l'instant, il y en a deux. Le coût est très, très faible. Dernièrement, il y en avait un qui était offert gratuitement, le premier, je crois. Donc, si vous avez une Oculus Quest, je vous le recommande très fortement. Faites une petite recherche rapide sur Félix and Paul dans la Oculus. Vous allez trouver ça très rapidement. Je vous parle maintenant de Workrooms, qui est la nouvelle patente d'Oculus qu'ils ont sorti. On avait entendu beaucoup parler de Horizons, que je n'ai pas pu essayer encore, qui est une espèce de Second Life, de petit bonhomme qui allait se déplacer dans un espace. J'en ai essayé quelques-uns où on se promène dans des espaces collaboratifs. Je pense à Rec Room, par exemple, ou à Spatial, qui sont un peu similaires. On se promène, on peut interagir avec des gens. Celui-là est vraiment axé sur le travail. Donc, je l'ai essayé, ça demande quelques manipulations au départ. Malheureusement pour moi, ben c'est pas disponible présentement. Le volet prendre en charge son ordi n'est pas disponible pour mon MacBook Pro avec une puce M1. On dit qu'on travaille là-dessus. Donc, je pourrais tester cette fonctionnalité-là, mais ça ne m'empêchait pas d'aller tester un paquet d'autres possibilités dans Workrooms. On a besoin d'un ordinateur, soit un PC qui a Windows 10 ou un Mac qui a Big Sur ou Catalina au minimum. Donc, on a quand même certaines demandes minimalement parce que oui, on doit mettre en place son Workroom sur un ordinateur en premier. On doit aussi télécharger l'application sur la Quest 2, parce que ça ne fonctionne pas avec la Quest 1. Donc, ça prend vraiment une Quest 2 pour démarrer le tout. Pour être administrateur, ça prend ça. Mais pour participer, on peut participer en mode visioconférence, comme on le ferait dans Meet, Teams, Zoom et autres. Donc, c'est très similaire. Donc, l'interface web ressemble beaucoup à tous les outils de visioconférence. Donc, on doit aller en ligne, on ouvre sa salle, donc la salle de rencontre, et là, on peut inviter des membres, on peut envoyer des liens en invité, et les gens peuvent se joindre soit par le navigateur web, soit par la Oculus Quest 2, s'ils ont une Oculus Quest 2, bien sûr. Il faut pairer les deux, c'est très simple. Là, au départ, on se crée un compte, après ça, on nous demande de télécharger l'application sur notre Quest, et dès qu'on ouvre l'application sur la Quest, il y a un petit code, et on doit aller mettre le code de l'autre côté, et là, il y a un pairage qui se fait. Ça, c'est vraiment simplement pour l'administrateur qui démarre le tout. L'interface web, comme je disais, ça ressemble vraiment à un outil de visioconférence, très blanc, très épuré, comme j'aime ça, pas 1000 boutons, pas 1000 paramètres, simple. J'ai fait le tour de l'interface en 5 minutes en cliquant un peu partout, j'avais compris, j'étais capable de l'utiliser tout de suite, donc on parle pas d'un outil compliqué. J'aime beaucoup l'idée qu'on peut participer sans casque. À l'intérieur du casque, ce qu'on voit, on a un écran. Comme si on avait un écran dans la salle, dans une salle de conférence et qu'on voyait la personne à l'écran en vidéo. La vidéo était quand même très bonne. Je déduis que ça doit tirer du jus par contre. Je l'ai essayé juste moi avec deux de mes comptes. Je ne l'ai pas essayé avec multiples invités, donc à voir au niveau de ce côté-là. On ajoute des membres soit par courriel, soit par une invitation qu'on leur envoie, mais on doit entrer leur nom. On peut aussi ouvrir notre salle en mode invité et partager le lien. En mode invité, par contre, la personne qui se connecte dans le navigateur, je l'ai essayé là en n'étant pas un membre invité, j'ai accès à la visio, mais j'ai pas accès au clavardage et aux fichiers. Parce que l'interface de web a vraiment un chat, un calendrier, a une section de fichiers qu'on peut aller chercher des fichiers locaux sur notre appareil. On peut aller chercher des fichiers dans un Dropbox ou dans un Google Drive. Nos calendriers peuvent être synchronisés avec nos Google calendriers et le calendrier Outlook. Donc, on pourrait aller ajouter une rencontre, comme on le fait avec les outils de visioconférence, là, dire je veux ajouter une rencontre Teams ou une rencontre Zoom, voulez-vous l'ajouter dans votre calendrier? Le même genre, on peut partir du calendrier et pousser ça dans le calendrier des gens. Donc, ça, on est très dans quelque chose d'un environnement de travail ou de rencontre. Très simple d'utilisation pour les gens qui n'ont pas un casque. C'est un environnement de visio, tout est en bas. L'interface me rappelle un peu celle de Google Meet, là, où tous les boutons sont en bas, ton partage, tout est vraiment très épuré, il y a pas 1000 options, on peut pas déplacer le chat, on ne voit pas les autres participants dans des petites tuiles par contre, parce que ce qu'on a comme vue, c'est vraiment comme si on était à l'intérieur de la salle virtuelle, fait qu'on voit soit les avatars des autres, soit des écrans qui flottent autour d'une table de conférence où on voit les autres personnes, fait que c'est pas des petits carrés qu'on déplace, qu'on peut épingler ou autre. Donc, je déduis qu'à plusieurs personnes, ça serait probablement pas l'idéal, mais si on était, je dirais, 5-6 personnes avec, mettons, une ou deux personnes en visio, puis les autres avec des casques, ça pourrait être très intéressant pour suivre les conversations de tout le monde. On nous met en garde qu'on est responsable de nos invités. Là, il n'y a pas un modérateur qui est dans nos rencontres puis qui peut venir gérer. Donc, si on ouvre ça en mode invité puis que les gens se partagent le lien, on est comme pris. Donc, il faut être prudent avec ce qu'on fait. Au niveau de l'interface avec le casque, c'était un petit peu difficile de comprendre le tableau blanc. Tout se fait avec les mains, ce que je suis un peu moins habituée. Je suis encore très manette, mais tous les mouvements là, dont on pince pour pouvoir sélectionner quelque chose. Donc, on a un petit moment d'appropriation dans l'interface. J'ai eu de la difficulté avec le petit tableau blanc, là, le temps de trouver comment on écrit. On nous le montre là, les premières fois, c'est la manette à l'envers qui devient un crayon. Sauf que là, si on a une autre manette pas loin, ça peut accrocher des choses. On fait le mauvais mouvement, puis on pince des doigts par accident, on vient d'activer autre chose. Donc, il y a un petit moment d'appropriation. Mais là, j'ai pas passé des heures là-dedans non plus. Donc, j'imagine qu'on se l'approprie assez facilement. J'aimais bien l'idée de la manette qui vire à l'envers. Elle devient dans l'interface comme un gros crayon. Ça me rappelait les tableaux interactifs là en classe avec les crayons. C'était à peu près la même grosseur puis qu'on écrivait. C'était le même feeling. On pouvait écrire directement sur son bureau. Parce qu'une des choses qu'on fait quand on entre, après avoir choisi son avatar, ce qui est bien sûr bien amusant, là, de choisir sa couleur de cheveux et tout, mais après ça, on doit délimiter où est notre bureau. Donc, je peux rester assis et dire « voici ma surface ». On m'invite à faire un peu de ménage pour pas donner un coup sur ma tasse à café en faisant mes mouvements. Mais après ça, je suis assis puis je suis vraiment sur mon bureau. Je suis même une étape de plus, j'ai été capable de faire détecter mon clavier. Je pouvais pas avoir accès à mon ordinateur, j'aurais dû, mais parce que mon ordinateur n'était pas dans ceux qui sont compatibles, je n'avais pas mon ordi devant moi, mais j'aurais pu avoir un écran d'ordinateur puis être vraiment comme si j'étais assis sur un bureau dans une salle de conférence puis que l'ordinateur est devant moi, mais mon clavier était reconnu, donc j'ai pu tester vraiment le casque dans le visage, complètement immersé dans ma salle de conférence, mais les mains sur mon clavier et devant moi, je voyais mon clavier et je voyais mes doigts aller sur les touches de clavier, donc ça fonctionnait très, très bien. On a 3 salles de conférence qu'on peut utiliser. Une pour des petites rencontres où on a seulement quelques bureaux. L'autre est une table en U. Et la dernière est en mode vraiment présentation. Donc, on a 2 rangées avec un écran de présentation. Donc, vraiment plus si on veut présenter. Pour ce qui est du tableau, l'espèce de tableau blanc, on peut le diriger assis sur notre bureau. Donc, on ouvre l'interface. Puis là, c'est comme si on a une méga grosse tablette avec notre crayon qui est notre manette à l'envers. Et on peut aller chercher des images, des fichiers qu'on avait téléchargés, soit au préalable ou autre. Puis après ça, venir écrire dessus. On est très limité, là. Je pense qu'il y a 4 couleurs, puis un efface, c'est tout. Mais bon, on peut quand même pointer des choses, encercler des choses. Sinon, on peut décider dans notre pièce de venir placer le tableau. Donc, je pourrais décider que je veux pouvoir me lever puis aller au tableau. Donc, le mettre derrière moi sur un mur qui n'est pas encombré de choses que je peux accrocher. Et avec le casque, je vais me lever, je vais aller au tableau. Et là, même chose, je vais utiliser le tableau pour pouvoir annoter ou encercler des choses sur une image ou autre chose. Donc, on peut vraiment avoir l'impression là, d'organiser son espace de bureau dans le virtuel décidé. Il y a une certaine flexibilité. L'environnement, bien sûr, c'est Oculus, c'est très joli. Ceux qui ont déjà essayé une Oculus, quand on entre là, dans notre espèce de page d'accueil, on peut être dans des petits chalets avec une vue magnifique, mais ça ressemble à ça, une belle salle de conférence épurée, mais avec des grandes fenêtres et une vue extraordinaire. J'ai pas vu d'options pour dire je veux changer la vue puis qu'on soit à l'hiver ou l'été, mais je déduis que ça va venir, qu'on va avoir d'autres environnements. Pour l'instant, on avait 3 environnements qu'on pouvait utiliser. On peut créer plusieurs salles, donc je pourrais avoir des salles pour chacun de mes équipes, par exemple, et on peut planifier des rencontres, donc je pourrais ajouter une rencontre au calendrier à partir de chacune des salles. Ça pourrait servir de visio sans même la quest, mais ça va prendre une quest pour démarrer le tout, ça nous prend le compte et tout, mais j'ai été en mesure de l'utiliser avec 2 comptes qu'on s'est parlé, que je me suis parlé à moi-même, finalement on s'est parlé aujourd'hui. Je parle à moi-même dans mes 2 comptes, mais on est en visioconférence, donc on utilisait vraiment juste l'interface de visioconférence. Je vois pas la plus-value de ne faire que ça, là. La plus-value est vraiment d'amener le casque et la réalité virtuelle dans tout ça. C'est sûr qu'on nous avertit dès qu'on a commencé que Facebook ne collectait pas d'informations pour de la publicité, mais oubliez pas qu'on donne accès à notre micro, les fichiers, on met ça sur une interface de Facebook. Donc, c'est sûr que c'est pas là que j'irais discuter d'éléments super sensibles. Ça serait plus pour des rencontres plus informelles ou des sessions de travail. Admettons qu'on travaille sur une nouvelle lunette de réalité virtuelle, puis qu'on part un nouveau prototype, c'est probablement pas là que j'irais, disons. Quoique, ils disent très bien que ce n'est pas, ils ne collectent pas tout ça. La plus-value de ça, parce que là, on en a plein, là, on a des zooms, mais pourquoi un autre environnement? Puis c'est-tu juste parce qu'il y a des petits bonhommes, puis que j'ai mon casque? Moi, je pense que la plus-value, elle est vraiment au niveau de la présence. Quand on est en rencontre, que ce soit Teams, Zoom, Meet, même les autres types d'environnements virtuels comme les Gather, puis les Kumo et autres, on vient facilement distrait quand on est à l'écoute. On voit moins les gestuelles. Là, on a des avatars qui suivent, qui ont une gestuelle. Ça va être plus dur de justement aller fouiller son Facebook quand on va être dans Workrooms de Facebook. Quoique là, je ne l'ai pas testé avec un ordinateur devant moi. On sait que même en rencontre, en présence, des fois, on est tenté d'aller voir nos courriels pendant une rencontre parce que le point à l'heure du jour ne nous concerne pas. Donc, est-ce que cette présence-là va vraiment venir tout régler? Je pense que c'est... Une autre possibilité de rencontre. Mon bémol est vraiment au niveau, est-ce que je vais vraiment mettre mon casque pendant aussi longtemps que ça? J'ai de la difficulté, moi, personnellement, à faire plus d'une trentaine de minutes avec le casque sur la tête. Pas qu'il est inconfortable, quoique ça peut devenir pesant. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui va s'améliorer avec le temps, là, la pesanteur du casque. Mais c'est plus au niveau des yeux, d'avoir l'écran aussi fort. J'ai souvent un mal de tête, pas un mal des transport comme certains ont avec le casque, mais vraiment mes yeux sont fatigués d'avoir l'écran, puis un léger mal de tête qui part très 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 rapidement après, pas un mal de cœur parce que ça a bougé rapidement, mais j'ai déjà fait une heure, puis c'est le gros max que j'ai réussi à faire. Fait que j'ai de la misère à m'imaginer qu'on va passer une demi-journée en mode brainstorm sur notre tableau blanc avec des gens qui vont se connecter dans le navigateur, puis d'autres avec les casques. J'ai un petit peu de la difficulté à voir comment ça va être plausible de ce côté-là pour la fatigue, mais je le vois très bien pour des courtes rencontres. On se prend une demi-heure, on jase sur le cas, puis après, on s'en va travailler chacun de notre côté. Et on peut continuer à clavarder dans l'environnement par la suite, à se partager des documents. On pourrait se rencontrer en visio. Donc, ça pourrait devenir un espèce de hub, une espèce d'endroit de rassemblement qui offrirait aussi l'option réalité virtuelle à ceux qui le veulent. Inscrit quelque part, je me souviens plus où, mais c'est soit un pop-up, soit c'est écrit sur le site. Les invités doivent avoir 18 ans et plus et ça va demander une confirmation aux invités qu'ils ont 18 ans et plus. Donc, pas de potentiel pour le moment au niveau de l'éducation. De toute façon, je vois difficilement ces casques-là être disponibles dans les mains des élèves et go, on donne tout notre cours. Mais pour des formations entre adultes, ça pourrait être intéressant pour des rencontres d'équipe. Ça pourrait être intéressant. Donc, on va les laisser aller parce que, justement, certains ordinateurs sont pas compatibles. Je regardais la liste des claviers compatibles. Le mien l'était parce que j'ai un Apple Magic Keyboard, mais on parle seulement des MacBook Pro qui sont compatibles au niveau du clavier. Et le seul clavier qui est pas un produit Apple est Logitech K830. Donc là, est-ce que le restant est compatible? Je pense qu'on est vraiment dans les balbutiements de tout. Donc, on va leur laisser le temps. Je vais réessayer l'outil dans peut-être un mois pour voir où ils en sont rendus où. Je vais essayer d'être à l'affût, de savoir justement quand ma puce M1 va être enfin disponible. Et là, je pourrais avoir l'expérience vraiment totale parce que je vais avoir accès à mon ordinateur. C'est comme un bureau virtuel. L'écran que je vais avoir devant moi en virtuel va être le même que mon ordinateur. Je vais avoir accès à mes fichiers et je vais pouvoir travailler dans l'environnement virtuel. Donc ça amène des belles possibilités de l'autre côté. Bien sûr, vous allez passer du temps avec votre petit avatar. Il y a les options de personnalisation ressemblent à toutes les autres avatars que j'ai vus jusqu'à présent. De toute façon, on est souvent assis. On ne nous voit que le haut du corps, comme en visio finalement. À moins qu'on se lève et qu'on aille au tableau, mais j'ai pas pu voir. Est-ce qu'on voit tous nos jambes? On nous avertit qu'on ne verra peut-être pas tout. Les avatars sont souvent des bonhommes pas de pattes qui flottent, donc à suivre pour ce côté-là. C'est pas aussi réaliste que des choses que j'ai vues comme dans Spatial qui partent de notre photo. On est vraiment dans un look petit bonhomme, mais ça suit vraiment nos mouvements. Et la minute qu'on enlève le casque, ben le bonhomme vient griser et on sait que la personne est déconnectée momentanément là, parce qu'elle n'a pas fermé la session, mais que la personne est inactive. Pour ceux qui sont à la maison, eux autres, ils voient ça, ces petits bonhommes-là et tout. Donc, à suivre, c'est vraiment dans ses débuts. C'est intéressant. À suivre maintenant, est-ce qu'on a assez de gens qui ont des Oculus Quest pour se lancer? Est-ce qu'on a assez de gens qui ont envie d'utiliser un autre type d'outil? Est-ce qu'il y a une plus-value? C'est tous des questionnements selon l'expérimentation qu'on va en faire dans les prochains mois peut-être, ou peut-être que ça va complètement tomber à l'eau, je ne sais pas. Mais Oculus semble mettre beaucoup d'énergie sur ce produit-là. Donc, à suivre, c'est quelque chose que je vais suivre attentivement. Si jamais vous l'avez essayé et vous voudriez qu'on l'essaie ensemble ou qu'on se rencontre pour en discuter en réalité virtuelle, allez sur lageekdeservice.com, laissez-moi un petit message, soit un petit message vocal ou rejoignez-moi sur un de mes réseaux sociaux et on essaie ça ensemble ou on en discute ensemble avec grand plaisir, comme d'habitude.